Encre bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'Association des éditeurs de Tahiti et des îles organise depuis plus de 20 ans le Salon du livre de Tahiti, lire en Polynésie. Public, lecteurs, auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumuora, le banyan de la Maison de la Culture de Papeete, pendant 4 jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast Encre bleue vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série « Rencontres au pied du banyan ».
Conversation sur le thème « Comment traduire un pidgin ?» basée sur l'expérience de traduction de l'ouvrage « 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuveries », ouvrage paru chez les éditions Au Vent des Îles. Échange entre autrice et traductrice Christiana Kahako-Wila, Mireille Vignol et Chantal Spitz.
Merci à tous. C'est la dernière conférence de cette journée qui a été riche, très riche. Toujours dans cet esprit à la fois d'échange, de paroles, de réflexion et aussi de choses un peu plus techniques et pourtant très intéressantes, en tout cas ce qui nous intéresse, nous, gens du livre. Et donc, Hélène vient de le dire, 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuveries. C'est quand même une remarquable traduction, puisqu'à l'origine, c'était « This is paradise ». Bravo. Bravo. Dans ce livre de Christiana, qui est assis à ma droite, il y a une réalité hawaïenne, elle en a parlé un petit peu tout à l'heure, et en particulier une langue, qui est donc un pidgin. Peut-être que moi, je qualifierais de slang hawaïen, presque, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça.
Non.
Ok, mais je vais quand même le dire parce que je l'ai vécu comme ça, à la lecture en tout cas. Et il s'est posé ce problème qui a fait que nous sommes là aujourd'hui réunis. Donc je vais peut-être commencer par passer la parole à Christiana. Ce pidgin hawaïen qui habite ton livre, qui habite peut-être la vie hawaïenne ou peut-être une certaine communauté de Hawaï. Est-ce que tu peux nous en parler?
I talked a little bit about the history of Hawaii on the last panel. And it's important to understand that the Creole, and it's a Creole language that arose in Hawaii, comes out of the plantations. And so the primary components are Cantonese, Hawaiian, English, of course, Portuguese, and some Japanese. And then later there'd be other immigrant groups. And I talked a little bit in the last panel that the people who were brought to work the sugarcane plantations, the people bringing them were the descendants of white missionaries from the United States, primarily the Boston area. And they thought of the people that they were bringing as objects, and so they'd list the number of people they were bringing right next to the number of bags of flour or the number of pounds of coffee. This matters because the Creole that's created comes from a real desire to communicate, to create a we, and yet that we is not equal either in the level of powers that different groups of immigrants and natives have, but also in the language. And you see those differences as you actually travel across the islands. So the first story in the collection, This is Paradise, C'est le Paradis, it happens in Hawaii. It takes place, in Waikiki. It takes place in Waikiki, which is a primarily tourist area on the island of Oahu and the capital of Honolulu. And the pidgin's very light, just more a flavor, a taste, a kind of slang. But as you progress through the stories, the pidgin gets thicker until the last story, which is set on the island of Hawaii, Big Island, up in Paniolo, up in cowboy country, the pidgin's so thick that even when I asked my dad's advice on the pidgin, he said, you're going to have to talk to someone older than me. And so for me, in writing the book, already there was a sense of needing to translate. I spoke pidgin until maybe I was 8 or 9, and then slowly kind of lost it. So I maybe speak with a little bit of flavor, but I don't speak Pidgin, the Creole language of the local population of Hawaii, which is different than Olelo Hawaii, the Hawaiian language. So I would think for translators, it would be an interesting challenge if already I'm doing an element of translating and writing the English original version, and that also this Pidgin is shifting in each of the stories, and like I said, sort of growing thicker and more robust as we move through each nouvelle, each story.
Merci, Christiana. J'aime bien cette idée de d'épaisseur de la langue. Elle est rentrée dans le vif du sujet, et on a compris qu'on a affaire à un gros morceau, pour le coup. Mireille, toi qui es traductrice, donc j'ai peut-être oublié de vous présenter, même si depuis 3 jours, on les voit beaucoup. Christiana, qui est une autrice, Mireille, qui est une traductrice, et Chantal, qui est une autrice, qui sert également de traductrice. Donc, Mireille, toi qui exerces le métier de la traduction.
Bon, alors déjà, si tu as eu l'impression que c'était un argot en le lisant, j'ai complètement raté mon coup.
Ah non, je parle de la version anglaise, moi.
Ah, de la version anglaise, oui. Ah, ok. Merci. Parce que c'était... En fait, le pidgin, le créole, c'est une langue. C'est une langue qui a une grammaire et qui a son vocabulaire et qui fonctionne comme une langue. Et là, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être je pense à ce qu'a dit Myriam tout à l'heure quand elle parlait du Bishlama à Vanuatu qui était pour elle le nous de Vanuatu, l'unification de Vanuatu. Et quand on pense à ce pidgin qui a quand même un sale passé, un passé de plantation, un passé qui est une histoire, qui est vraiment une histoire vraiment tragique, quoi, mais qui a permis d'avoir quand même le pidgin à Hawaï, le Bishlama à Vanuatu, le Tokpisin en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Salomon, il y a un pidgin, il y a le créole en Australie. Ça serait intéressant d'imaginer une langue qui puisse se parler dans tout le Pacifique. Et le pidgin est déjà à un certain niveau. Mais ça n'explique pas comment on peut le traduire en français. Et alors, bon, alors là, peut-être pour expliquer...
Peut-être lire, peut-être... Non, ah non, si, peut-être tout le monde ne comprend pas, mais c'est intéressant peut-être de lire un petit
extrait
en anglais, oui. Juste pour avoir une idée de la langue qui est quand même très particulière.
Is that okay to read my writing?
Just like the kind, scared of the water, howlies, yeah.
Bon, voilà. Et donc en français, c'est rendu... en fait, le sens, c'était just like the kind. Donc, c'est typique, scared of the water, elle a peur de l'eau, howlies, yeah, les blancs, hein. C'est devenu dans la version finale, regarde, elle a peur baignée à la mer, c'est bien une haole, tiens. Donc voilà, c'est des femmes qui observent une femme blanche qui est le centre de cette première nouvelle. Donc alors, pour revenir au processus, en fait, on est toujours face à un choix. La traduction, c'est des choix. Parce que les mots, c'est tellement de trucs, déjà dans le sens qu'ils ont au départ, et ensuite dans le nombre incalculable de possibilités qu'on a de choisir pour les transmettre dans une autre langue. Donc, tout est une histoire de choix. Et donc le sens d'abord, ok, on a le sens. Ensuite, comment on l'exprime? Alors, évidemment, un premier choix, c'est de le traduire en français classique et de pas du tout s'intéresser au fait qu'en anglais, ça a un son vraiment différent. Bon, évidemment, c'est nul de faire ça, on se rend bien compte. Un deuxième choix, c'est d'utiliser un créole qui existe en français. Donc, il y a des créoles français, évidemment. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas dans le Pacifique, à part en Nouvelle-Calédonie, dans la tribu de Saint-Louis, le Taïo, hein, c'est ça? Donc, vraiment, on est très loin au niveau linguistique de la Polynésie. Donc, un créole... Bon, j'aurais pu essayer de travailler avec quelqu'un qui parle le créole et essayer de le rendre vraiment dans un créole, mais j'avais l'impression que c'était faux. Voilà, que ça aurait été faux d'avoir un créole antillais ou un créole réunionnais qui se trouve à Hawaï. Donc après, l'autre choix, c'est d'inventer, d'essayer de faire une langue qui sera un espèce de mélange de pas mal de choses et surtout qui est une espèce de flavor, une espèce de goût. Flavor, c'est pas un mot, ça, si. Ouais, c'est de l'anglais. Un espèce de goût polynésien. Et à partir de ce moment-là, eh bien, évidemment, on regarde Hawaï et puis on regarde la Polynésie française et on se dit, bon, ben voilà, on est à côté. Les langues, parce qu'il y a du hawaïen aussi, quand même, dans le créole, de temps en temps, le pidgin, de temps en temps. Alors, on se dit, OK, on va essayer de créer une langue qui a une langue, donc le français de Tahiti, c'est ce que je me suis dit. Le français de Tahiti, donc quelque chose qui sonne différemment du français de Tahiti tel qu'il est parlé ici, puisque là, ça se situe à Hawaï, évidemment. Donc, on va avoir des mots hawaïens, mais une espèce de musique, une espèce de couleur tahitienne. Mais moi, je ne peux pas faire ça, parce que moi, je suis une Auvergnate, finalement. Donc, même si je connais un petit peu le Pacifique, je n'ai pas du tout la capacité de me dire, tiens, ça sonne comme ci ou ça sonne comme ça. C'est là que j'ai fait appel à Chantal. Je dis, Chantal, je vais t'embêter, mais ça serait bien si tu pouvais m'aider à traduire ces passages de pidgin en un français, voilà, qui est une espèce de résonance polynésienne. Et alors, ce qui était intéressant, bon, toi, tu vas en parler, Chantal, mais ce qui était intéressant, c'est que, bon, au début, j'étais un peu emmerdée, quoi, quand même, carrément, parce que c'était... Je me disais, mais j'étais tellement maladroite, et en même temps, je me disais, bah, c'est bien, parce que tu vas pouvoir redresser, Chantal, et elle redressait, parce que j'avais vraiment pas le... j'avais pas l'oreille, même dans la structure de la phrase, où placer les mots, où mettre, elle est comme ça seulement, plutôt que dire, elle est seulement comme ça. Il y avait vraiment toute une espèce de musique que j'avais pas, et alors on a passé des longs moments à discuter, à échanger, donc on parlait sur le sens, on le lisait à voix haute, on faisait ça par Skype, hein, par écran d'ordinateur interposé, on est tombé dans une deuxième chose après ça, c'était, Chantal disait, attention, il ne faut pas tomber dans les clichés non plus. Par exemple, ce premier exemple-là, elle a peur baigner à la mer. Moi, je disais, mais ça se dit bien, elle a peur baigner la mer, c'est bien une expression tahitienne. Et donc, Chantal dit, ouais, mais c'est trop cliché. Donc voilà, on était dans une espèce d'approche où il fallait essayer de trouver cette espèce de résonance, cette espèce de goût, de musique, de petite musique, sans tomber dans les clichés non plus de ce qu'on s'attend à ce que le parler polynésien soit. Et aussi, j'ai lu la traduction des livres de Célestine. Voilà, pour me baigner d'une espèce de musique, une espèce d'oralité. Et en même temps, je demandais à Christiana de m'expliquer, d'être bien sûr de la signification. Ensuite, à Chantal, donc ça a été vraiment un travail d'équipe en fait. Et après, pour tout vous avouer, je suis pas sûre du résultat, parce que encore c'est de la traduction. Il y a 30 000 choix. Peut-être que j'aurais pu faire un autre choix. Peut-être que ça serait mieux autrement. Peut-être qu'on devrait encore le travailler. C'est toujours à l'infini en fait la traduction. Et si c'était un autre livre, pardon, c'est encore une chose très importante, c'est que dans le livre de Christiana, le pidgin est un personnage. C'est vraiment un personnage à part entière. C'est ce que tu disais, le pidgin, il évolue d'une histoire à l'autre et il existe, il y a plein d'explications de pourquoi ce pidgin est là et de ce qu'il représente pour les personnages aussi. Et donc, j'ai dû le traiter avec le respect d'un personnage de livre. Dans un autre livre, mais j'en parlerai plus tard, c'est complètement différent. Alors moi, ce que je me demande, c'est, toi, tu as dû te dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut au début avec cette approche de...
Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais traduit rien. Et je trouvais que c'était un exercice... En fait, au début, j'avais pas trop envie de faire parce que ça fait peur quand même. De traduire, tu vois, du pidgin hawaïen en français, parler ici. Je me disais, mais peut-être que ça ne va pas trop coller. Et voilà, en fait, au début, j'avais peur. Et puis après, eh ben, je me suis dit, il faut se lancer. De toute façon, il faut traduire ce livre. Donc, allons-y. Et puis c'était toi, quoi. J'étais sûre. Enfin, je savais que je pouvais te dire tout ce que. Voilà, voilà. Je savais que les échanges allaient être vraiment ouverts et qu'on allait pouvoir se dire les choses, quoi. Donc c'est aussi pour ça. C'est aussi parce que c'est toi. Je suis pas sûre que j'aurais accepté si ça avait été quelqu'un d'autre. Voilà.
C'est un compliment, ça, Mimi.
Mais je sais. Mais alors, c'est une question de confiance et je crois que c'est aussi c'est primordial dans ce qu'on fait. C'est que on se fait confiance et que voilà, on sait s'écouter et on sait se la donner. Si ça ne nous plaît pas, on sait se le dire et on sait l'écouter.
Et puis, alors des fois, Mimi, elle avait un peu, c'était un français un peu trop poli. Hein? Il y avait des fois où tu avais traduit ça un peu trop poliment et ça perdait le petit côté pidgin. Et des fois, tu te souviens, des fois on s'éloignait un peu parce que on restait sur la traduction que tu avais faite et on disait, ben non, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Et puis on disait, non, il faut retourner à la version anglaise. Il faut retourner à l'anglais parce que là, on est en train de dériver. Parce que nous deux, hein. Ah ben non, on peut dire comme ça, on peut dire comme ça, mais finalement, et on se disait non, il faut retourner à la version originale pour savoir vraiment qu'est-ce que Christiane avait écrit.
Moi, j'ai une petite remarque, parce que bon, Mimi, c'est son métier de traduire, donc elle est habituée, et je comprends bien l'inquiétude que ça peut avoir pour toi. Et alors, j'allais dire, a fortiori encore plus pour toi, qui a quand même construit un style, une écriture qui est tienne et qui n'appartient à personne d'autre. Dans lequel tu t'es construit littérairement, j'allais dire, ton écriture a évolué jusqu'à ce que tu écris aujourd'hui, La mer pour demeure. Et là, de te mettre dans un univers qui quelque part te sort de ce style, de cette façon d'écrire très personnelle, c'est quelque chose de facile de sortir ce dans quoi tu t'es installé depuis quand même. C'est un parcours littéraire, c'est un parcours de vie presque. Et c'est libérateur, c'est ouvrir d'autres horizons, c'est un petit exercice comme ça qui repose.
Non, alors en fait, j'ai pas pris ça comme un exercice d'écriture littéraire. Au contraire, moi, ce qui m'intéresse, enfin, je me disais, il faut que tu te souviens comment les gamins du village parlent, il faut que tu te souviens comment, tu vois, voilà. C'est ça, en fait, c'était ça mon souci. Est-ce que je suis capable de me remettre dans le village? Alors, bon, alors, les gosses, comment ils parlent? Mes fils, comment ils parlent quand ils parlent avec les gosses du village? Donc, en fait, mon avantage, c'est que je connais bien le milieu où on parle cette langue particulière. Donc, non, j'ai même pas pensé à que... En fait, j'ai pas pris ça comme un exercice personnel, enfin, comme une écriture. En fait, c'était une commande. Tu vois, quand tu commandes un truc, tu fais, voilà, sur commande. Et je me dis, ben, je savais que je devais traduire le travail de Christiana. Mais mon souci, c'était, est-ce que je suis capable de me souvenir de tout ce que comment les gens du village parlent? C'était ça mon souci, en fait.
Et alors, ce dont je me souviens aussi, c'est que, très souvent, tu condensais. C'est-à-dire que il faut aussi expliquer que il fallait que le texte reste compréhensible parce que c'était quand même important pour le lecteur de pas être complètement paumé. Il fallait que ça sonne différent, mais que ça reste compréhensible. Ce qui peut-être dans la version originale est pas toujours le cas. Je sais pas comment les lecteurs. Je sais pas si tu as eu des retours des lecteurs. D'ailleurs, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des lecteurs qui t'ont dit mais on comprend pas ce qui est en pidgin?
I'll answer that in one moment, but I have to say that's very moving to me, Chantal, to hear you talk about having to go back to the village and your memory and think about how your kids spoke and how they interacted, because writing pidgin for me in English was like that. I had to go back to how my cousins and I spoke to one another when we were growing up, and I had to sit with my uncles and aunties, and I mean, I love listening to their stories, that's not a problem at all, but also listen to how they render language. And so there was something of an emotional memory that had to happen in order for me to make the pidgin, and to hear that echoed from you is very moving. It feels like a similar it's maybe similar sort of spiritual thing. And then in terms of the pidgin for readers, I mean, there's two readerships, really. There's the readership in Hawaii who knows the pidgin, and there's the readership in the other 49 states of the U.S. And so I did not want a glossary in the English version. I think there's a very good reason for having one in the French version. I did not want footnotes in the English version. If an American English speaker doesn't know the pidgin, then probably they should look it up. And that's a political move for me and a very intentional one. If you want to get to know Hawaii, then do the work to get to know Hawaii. It's also about who this book's for. It's for, first and foremost, the people I love the most, and they'll know what the language is. So it was a particular thing that was happening in the English that I did not think had to happen in the French and probably shouldn't, because of, well, it's a different relationship that Hawaii has with the U.S. than they have with, say, France or with Tahiti.
But did people tell you, pardon, les gens, est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils ne comprenaient pas des fois?
Yeah, oh, I've had multiple readers ask for... you know, why didn't you include a glossary in the English version? And well, I just told them the reason I told you.
Alors donc toi, Christiana, qui parle un très bon français, hein, c'est une évidence. Est-ce que tu es contente de leur travail toutes les deux? Have you read it? As-tu l'as lu en français?
Yes, of course I've read it in French. And I love it because I think it. It does capture a flavor of something, a taste of, you feel the different shifts in the language. You feel that there are different kinds of French happening and a sense of creolité. But I think there's, I thought it was great. Wait, there was a second half I had to that seemed important when it popped into my head. Oh yeah, I know. I did. I have loved it, and it's been like very pleasurable to read, and sort of strange also, because the translator, and in this case the translators, are artists too. So they have to take ownership and control of the work, and so the work has to belong to them. You know, the book was published in English in 2013, so for 8 years it belonged to me as a creator, and only me as a creator. I mean, it belonged to readers, but I was the sole creator, and now there's two other people who are creators. It seems like a beautiful thing to me.
Et c'est vrai que il y a aussi la confiance. Elle était aussi de toi, de se dire bon, il faut que tu fasses confiance. Les auteurs doivent faire confiance à leurs traducteurs. Et alors des fois, les plus chiants, c'est ceux qui parlent français, les auteurs, parce qu'ils ont l'impression de connaître la langue, et donc ils essaient de tout changer, ils questionnent tout, enfin il y a vraiment mais il faut faire confiance, quoi. Il faut parler, il faut échanger, et puis après il faut faire confiance. Et j'ai pas fini parce que je suis dans tous les sens évidemment, mais tout à l'heure ce que je voulais dire aussi, c'est que très souvent Chantal me disait, mais ça on en a pas besoin, ça enlève. Et c'est vrai que je pense que le français tahitien est très direct, et donc c'était, il y avait pas, on va pas faire ajouter plein de mots et tout, ça va vraiment à l'essentiel tout de suite. Et donc un gros boulot, ça aussi, ça a été de réduire, de condenser, d'être direct comme ça. Et pour ça, bah, il fallait aussi que Chantal soit patiente.
Et du coup, Mimi, elle a perdu de l'argent parce qu'elle elle avait des mots en moins.
C'est ça, on est payé aux mots.
Ah oui. Vraiment.
Oui, non, mais des fois, Mimi, elle s'embarquait dans des trucs. Je me dis, on n'a pas besoin de ça. Parce que nous, on ne dirait pas du tout comme ça. Tu sais, c'est trop élaboré, ta langue, là. Il faut coller le plus possible à la langue qu'on parle.
Et c'est ça qui était bien d'arriver. Mais des fois, c'était dans l'autre sens un petit peu. Moi, j'avais envie d'être plus près du pidgin. Et toi, tu me disais, ben oui, mais on dirait pas ça comme ça. Et donc, on a fait ce choix. Maintenant, on a fait ce choix de se dire, on va faire un français que, voilà, on entendrait à peu près à Tahiti. Mais on aurait pu faire un choix complètement différent. Et c'est le choix que je vais faire pour le prochain livre de que je suis en train de traduire et qui est un livre hawaïen aussi, qui est un polar. Parce que dans ce polar, le pidgin n'est pas un personnage comme dans le livre de Christiana. Il n'a pas besoin que je le ménage. Je m'exprime mal. Mais il est autre chose. Il est autre chose. Il est quelque chose qui est complètement en dehors. Je sens plus comme un espèce d'écart de la structure narrative. Et donc là, je crois que je vais faire quelque chose qui sera simplement au niveau de la syntaxe et tout ça, qui va être très différent du français standard, mais qui aura plus besoin d'avoir cette espèce d'accent polynésien.
Et puis, merci. Il y avait un truc aussi, tu te souviens, Talk Story. Talk Story.
Ah, Talk Story, absolument. Et ça, alors, on y a passé un bon moment quand même. On en a toqué des stories, là. Hein. Parce qu'effectivement, Talk Story, ce qui est intéressant, Christiana, c'est que to Talk Story, donc ce n'est pas de l'anglais standard, on le trouve dans le pidgin, mais on le trouve aussi dans la narration, parfois. Parfois, tu l'utilises dans la narration. Et donc, c'est vrai qu'on... Alors là, on a passé un bon moment pour savoir. Et je crois qu'à la fin, on a fait parler histoire, des fois.
Ouais. Et histoire de parler.
Et histoire de parler. Parce qu'on voulait, voilà. Selon, c'était... ils vont dans la cuisine, to talk story. C'était histoire de parler. Ça marchait bien, puisqu'il y avait les deux mots, histoire, parler, talk story. Mais histoire de parler, c'est une expression en français. Donc, c'était... Et l'autre, c'était, voilà, pour parler histoire. Et là, c'est vrai qu'au début, on se dit, mais... C'est pas français. Et puis aussi, il faut bien se dire que ce qui sonne pas français, ça sonne pas français une fois, ça sonne pas français deux fois, la troisième fois, ça sonne. Mais je veux dire, on a vraiment... La langue, elle est faite pour bouger, elle est faite pour être bousculée, et elle est faite pour sonner différemment. Ça la dérange pas, elle s'en fout. Au contraire. Donc voilà, c'est je pense que on peut faire encore plus. On a peut-être été un peu timide, moi, je me dis. Tu crois pas,
Christ? Non, mais après, ça aurait fait vraiment trop exagérer. Tu vois, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre excès.
Voilà.
C'était ça, c'était comment trouver l'équilibre entre ne pas devenir caricatural et, voilà, et quand même être différent. Ouais.
C'est toujours le problème avec toi, Chantal. Tu es toujours trop modérée.
Ben, tu sais, je suis victime de mon éducation.
Et peut-être en plus, peut-être.
Bien, merci beaucoup. Cette réflexion, pas tellement sur la traduction, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais sur cet exercice très particulier de rendre une langue qui n'existait pas, en fait, ou d'inventer une langue qui n'existait pas, si quelqu'un a des questions, elles sont les bienvenues ou la bienvenue.
Je peux peut-être juste lire un tout petit extrait, oui. Je pensais, d'une des nouvelles qui s'appelle Wanley, qui explique ce personnage... donc une coqueluse aussi. Alors ça, je ne sais pas pourquoi on n'a pas vraiment parlé. Ça n'a rien à voir avec cette conversation, mais il y a des combats de coqs. Il y a une histoire qui est toute sur les combats de coqs. Et en fait,
devine,
on en a pas.
On le devine d'après la couverture, à vrai dire.
On devine un petit peu, oui, mais on n'en a pas parlé. J'ai à Tahiti qui est quand même. Donc voilà, dans Wanley, donc ce personnage dit à l'époque, je parlais pidgin sans y réfléchir. Sans me soucier des personnes à qui je m'adressais, y compris les professeurs à l'école. J'avais la même approche que mon père avec les mots. Autrement dit, je ne leur accordais aucune valeur. Donc ça, c'est son approche du pidgin. Et après, elle évolue, après avoir rencontré un Indien dont tout le monde tombe amoureux, en lisant. Et donc, elle dit, à l'université, elle finit par aller à l'université, je me suis découvert un penchant pour le bon anglais. Pour cette rigueur de langue que l'Indien, donc son ex-copain, m'avait autrefois imposée. Aujourd'hui, le pidgin est une forme de traduction pour moi. Le parler de mon passé. Je trouve que c'est intéressant par rapport à sans doute ton lien avec le pidgin.
Yeah, well, yes, and as I was saying that I was already thinking about translation and that character is maybe a victim of her education as well, that there's one thing she loses, and that's kind of this pidgin tongue that she grew up with and that her father spoke, and when that story is very much about letting go of her father, and when she lets go of him, she also lets go of the language she spoke growing up and comes into a more academic English. And that's some of her coming into her own self, which is exciting, but that's not without a real loss as well. And so, yeah, when also Pigeon is, like you're saying, a character, which I believe in the stories, but it's also, you know, it's doing something thematically. It's echoing against a lot of how language is operating and how Pigeon is operating is often has something to do with what's happening thematically in each of the stories.
Je crois qu'il y a aussi autre chose, c'est que peut-être c'est une réflexion qu'on peut avoir vraiment au niveau de, d'un parler océanien, d'un français océanien, c'est de se dire que effectivement on manque de traducteurs qui viennent de la région. Et ben moi, je suis de l'extérieur, avec une histoire peut-être qui était un petit, enfin de l'intérieur, mais je suis quand même de l'extérieur. Mais on peut travailler. Mais il faut savoir demander de l'aide aussi. C'est pour ça que moi, je me suis tournée vers Chantal. Et parce que il faut, ça m'aurait vraiment gêné d'essayer de faire semblant de parler tahitien, quoi. Au français tahitien. Donc, il y a ce, il y a deux choses là. C'est que, parce qu'il y a eu une, je sais pas si vous avez, il y avait une, toute une controverse, quand il y a eu le discours d'une poétesse pour Obama, Ouais. Et donc les traductions, donc elle était noire américaine, et les traductions en français, en hollandais, etc. Évidemment, comme elle avait parlé pour l'inauguration, tout ça a été publié, traduit dans tout un tas de langues. Et en fait, après, il y a eu un débat sur oui, alors si on est blanc, est-ce qu'on peut traduire ce poème ? Et alors, donc c'est devenu un espèce de. Alors évidemment, tout le monde était là. Oui, à ce moment-là, il faut être russe pour traduire Dostoïevski. Il faut être. Enfin, bon, voilà, il y avait tout un débat là-dessus et toute une espèce de défense très très crispée, très viscérale. Et moi, je me suis dit, mais c'est quand même l'occasion de réfléchir, peut-être. C'est pas une question de couleur, parce qu'en fait, c'est ça. C'est une question de comprendre. C'est une question de se mettre à la place d'empathie, en fait, de se mettre à la place des gens. Et surtout, une question de demander. Quand on sait pas, on demande. On fait pas semblant de savoir. Et après, il y a la question de former des gens, des traducteurs, dans le Pacifique, qui vont pouvoir avoir se parler naturellement.
Je crois que Jean a bien réfléchi à la question. Donc, peut-être que tu peux que tu peux partager ta réflexion sur la traduction.
Par où commencer ? Je suis tout à fait d'accord avec cette idée que parfois quelqu'un qui connaît un petit peu la langue vers laquelle on traduit peut être, je pense que l'expression était chiant. Donc, tout à fait d'accord. Je ne dirai pas la nationalité de la personne en question, c'est pas ici. J'explique peut-être que j'ai eu, en 2005, une invitation de la part de Christian de traduire un livre de Patricia Grace, qui est une grande autrice néo-zélandaise maori, vers le français pour la fête des belles étrangères en France en 2006. Et j'ai fini par dire oui, à condition de trouver une française, une native speaker pour m'aider, parce que aller vers une langue étrangère, c'est assez exceptionnel. On a commencé, c'est un texte, Les yeux volés, Baby Noise, qui a tous les éléments stylistiques typiques de Patricia Grace qui font que ce sont des textes vraiment difficiles parfois, poétiques, avec des constructions qui viennent parfois du maori, qui sont là en anglais, avec aussi des éléments qui viennent de l'époque où elle était jeune. Je suis pas de la même génération tout à fait, mais je reconnais quand même certaines choses que des gens plus jeunes ne connaîtraient pas. Et notre première idée, c'était de nous tourner vers des textes tahitiens pour voir comment on avait représenté une langue maorisée plutôt que maorisée. Et on n'a rien trouvé. Je pense que les livres de Célestine, c'était un peu plus tard, ou qu'on n'avait tout simplement pas trouvé à temps. Et alors, on s'est trouvé un peu obligé d'essayer d'inventer une forme de français qui représenterait, parce que là, je me vois un petit peu, si vous voulez, comme la gardienne de l'expression non standard en anglais pour essayer de faire transmettre ça. Et voilà, n'ayant pas trouvé de modèle, on a fini par essayer d'inventer quelque chose. Et je n'oublierai jamais un commentaire qui nous était revenu de la part de je ne sais pas qui, mais transmis par Christian, qui me demande « Est-ce que votre collègue française a vu ça ?» Ben alors que c'était elle qui avait trouvé justement cette formule. Bon, mais c'est je suis pleine d'admiration en apprenant un petit peu ce que vous avez fait pour cette traduction-là. C'est un énorme défi du moment où on quitte une langue de départ standard ou classique, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. C'est un défi, mais c'est un énorme plaisir aussi. Alors je vous remercie, je vais devoir m'acheter encore un livre avant de partir. Merci beaucoup.
Bon, merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose, Mimi ?
Oui, j'avais Allez. Juste une note. Merci. C'est que je voulais quand même dire que j'avais un petit peu de j'avais un petit peu de d'expérience dans cette espèce de jeu de traduction avec Russell Soaba qui est ici. Et donc je me rappelle qu'on parlait de la signification de Maïba, donc le nom du livre. Et donc Maïba est une forme de parabole ou de devinette, enfin. Et il me dit, c'est la traduction en anglais d'un état d'esprit Anouki. Anouki étant la langue parlée par entre 300 et 500 personnes de Russell. Et donc, je me suis dit, OK, donc on va traduire en français la traduction en anglais d'un terme Anouki qui veut dire une parabole. Et évidemment, dans les textes de Witi Himaira, qui est aussi ici, il y a beaucoup de termes maori et c'est ce qui rend la traduction un métier quand même absolument formidable. On est toujours en train de se poser des questions de c'est comme un grand jeu, comme un grand puzzle, et on essaie de faire, on a des morceaux différents, mais à la fin il faut quand même que ça aille de la gueule, quoi.
C'est pour ça que les traducteurs sont des grands enfants.
Merci, on applaudit bien fort s'il vous plaît.
C'était la conversation sur le thème comment traduire un pidgin, basé sur l'expérience de traduction de l'ouvrage « 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuveries », ouvrage paru chez les éditions Au Vent des Îles. Échange entre autrice et traductrice Christiana Karakowila, Mireille Vignol et Chantal Spitz.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. Maruru et Yaorana